Je vais mettre à disposition un micro pour la salle. Jacques, merci d'avoir souligné la singularité et l'importance de ce réseau des MJC. On n'en a pas parlé, mais ça c'est quelque chose d'essentiel. Là tu fais ressortir quelque chose d'essentiel. C'est un outil dont il faut rappeler qu'il est issu des politiques gaulliennes quand même, hein, qui finalement avait été assez, donc la politique d'Herzog, assez redoutée par les gaullistes en 67, ils en parlent dans le livre blanc, Missoff en parle, et on voit que finalement c'est devenu un outil de diffusion de cette culture dans les années 77, etc., que tu évoques assez bien. C'est un aspect aussi très intéressant, on parlait de géographie du punk tout à l'heure, cette diffusion qui passe sans repasser par le centre. Hein, ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Merci également d'avoir rappelé cet autre aspect. Tu parlais d'urgence, de nos amis qui sont morts. Ben oui, à un moment donné, la question de la drogue, elle est présente. Elle arrive assez rapidement, hein, parce que la French Connection, c'était pas juste un film. Hein, l'héros, notamment, s'est abattu sur ces populations de manière assez... On le voit à Bordeaux, mais là, tu l'as évoqué aussi. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, j'aurais une première question croisée, en fait. J'aurais aimé, parce que vos communications sont très complémentaires, et j'aurais aimé que Flavien réagisse sur la com de par rapport à ce que tu évoques par rapport au texte, sur la com de Jacques, et éventuellement que Jacques réagisse, ou est-ce que, enfin, comment vous voyez une mise en perspective sur vos propres communications, puis après on vous cédera la parole si c'est possible, hein, c'est pas une obligation.
Alors merci Flavien d'avoir souligné le fait de repoétiser la banlieue. Je crois qu'en fait, les jeunes, et notamment à travers le mouvement punk, ont cherché à s'emparer d'une forme littéraire propre qui échappe finalement au conditionnement marketing ou aux choses déjà existantes pour finalement parler d'eux. Parler d'eux face à la crise, face à cette incertitude du lendemain qui quand même hantait les générations des années 77-80, même si on ne s'en rappelle plus beaucoup. Et je crois qu'en fait, il y a une volonté tout à la fois en dénonçant son isolement et sa vacuité, de parvenir à exister, à émerger et à permettre à chacun qui s'y identifie de devenir au monde quelque part, à un monde beaucoup plus grand que le simple petit endroit d'où on est et d'où finalement tout le monde se fiche. Quoi.
Oui, alors merci pour ta communication. Effectivement, je pense qu'il y a eu des choses assez complémentaires qui ont été évoquées par un heureux hasard. Et ce que je remarque que ta communication a apporté comme ouverture plus large et que tu viens d'évoquer, c'est cette hantise de la finitude, bon, que j'ai évoquée sur un plan strictement littéraire, mais dont tu donnes une incarnation triste par rapport effectivement à ces absents, mais par rapport à des discours que j'ai pu entendre de la part de gens un petit peu plus âgés que moi qui ont vécu ce moment de la fin des années 70-80 en tant qu'acteur, on a l'impression effectivement d'un sentiment de quasi apocalyptique, de fin, pas que de soi, mais de fin du monde, de fin de quelque chose qui risque d'arriver, qui risque de tout foutre en l'air, avec des euromissiles qui se baladent là dans les nuages, avec cette série de crises dont, alors là, tu as dit de façon très juste, en comparant le cas américain, le cas anglais, le cas européen, je crois qu'il serait intéressant, je m'étais amusé à commencer un petit peu à le faire, de créer une espèce de chronologie, hein, à partir de 1945, des divers conflits, des diverses crises, des chocs pétroliers, etc., en relation avec les événements musicaux, l'apparence de toutes ces mouvances contre-culturelles, contestataires, etc., qui s'inscrivent dans une espèce de téléologie d'une angoisse de la fin du monde et de la fin de soi qui se lit dans le côté noir du punk. Et là, pour terminer très, très, très brièvement sur ce que je dis, je crois qu'il y a certaines personnes présentes ici avec qui j'en ai parlé savent que c'est un sujet qui me tient à cœur. Il y a la lecture de 1984 d'Orwell et il y a ce nombre 84 et cette année 84 qui apparaît, hein, dans des noms de groupes notamment, surtout outre-Manche et surtout dans le mouvement Oeil, mais également on l'a vu en France avec François Béru lors de sa communication d'une récente journée de travail. il y a ce sentiment effectivement que bientôt, c'est-à-dire probablement en 84, ce sera la fin du monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui était peut-être en filigrane dans ton message.
Merci pour vos réactions.
Moi, je voulais juste souligner le travail exemplaire, parce qu'il ne s'en est pas vanté, mais de ce qu'il a fait cette semaine. Donc, Jacques a créé sur Facebook un groupe destiné, donc qui s'appelait Suburban Punks, qui était destiné en fait à faire surgir l'archive. Et moi, donc, je me suis abonnée. Toute la semaine, j'ai vu les gens répondre. J'étais très touchée. Donc, les gens mettaient leurs photos, essayaient de reconstituer qui il y avait sur les photos, parce que ce n'est pas toujours facile. C'est quand même des photos qui ont 35 ans, on va dire. Beaucoup de... J'étais très frappée aussi par les commentaires, par l'affect que les gens ont de ces choses, et par... j'ai l'impression que tu as fait ressurgir tout un pan du passé. Et j'ai été aussi très très frappée par les phrases qui disaient c'est pas de la nostalgie en fait, c'est un regard en arrière sur nous, mais maintenant quelque part les plaies elles sont pansées et on peut regarder en arrière. Enfin, j'ai vraiment et ce que tu as fait c'est exemplaire, et j'espère que tous les membres de l'équipe ici présents vont pouvoir faire comme ce qu'a fait Jacques au niveau de leurs contacts locaux, etc., parce que vraiment Jacques, tu as fait un travail en une semaine de surgissement de l'archive impressionnant, et je te remercie beaucoup pour ça.
Question. Oui, merci, merci à tous les deux. Philippe Gonin, je suis de l'Université de Bourgogne. Merci pour ces deux communications qui étaient très intéressantes. Je vais avoir une question un peu peut-être à la marge ou provocante. On a parlé de la littérature chez les punks. Je voudrais savoir ce que, Flavien, tu penses de la description de la banlieue qu'on trouve dans deux cas, chez Renault d'une part, à peu près à la même période, et d'autre part chez Trust. Quelle particularité la banlieue punk aurait par rapport à ces deux-là ?
Question très pertinente. Je n'ai pas voulu aller plus loin que le rock alternatif. Bon, finalement, Trust et Renault sont des artistes pas si éloignés que ça dans leur public ou dans les représentations un petit peu iconoclastes qu'ils véhiculent du mouvement punk. Après, on ne pouvait pas effectivement trop élargir, mais je pense que tout cela participe effectivement d'une relecture, d'une réesthétisation de la banlieue et de Paris également, qui apparaît, j'ai cité deux films, mais en fait tout ce cinéma noir français des années 70-80, qui essentiellement fait de polar également, je pense à Police Python 357, Au choix des armes, jusqu'à L627, toute cette BD dont je n'ai cité que deux auteurs, tout ça véhicule une culture effectivement d'une urbanité qui cesse de fasciner par son côté radieux, pour reprendre les termes d'après-guerre et de Le Corbusier, qui cesse de n'être que répulsive parce qu'on se rend compte effectivement que ces grands ensembles provisoires deviennent des cités dortoirs et des mouroirs définitifs. Et effectivement, c'est également ce que chante quelque part Renault surtout. Bon, Trust, la banlieue, il me semble qu'elle n'est pas omniprésente
non,
dans leur texte.
C'est plus de la politique, c'est un peu moins la banlieue, effectivement.
Oui, mais ça reste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On reste dans cette esthétique d'un urbanisme ou d'une urbanité un petit peu décrépit, pluvieux et sans espoir, qui, à cette époque-là, fonde, à mon sens, une des caractéristiques principales et les plus intéressantes de la culture et des contre-cultures françaises du moment.
Oui, exactement. Juste deux secondes. En termes de film, je crois qu'il y a un film qui s'appelle Elle court ma banlieue. Il y a Higelin qui est dedans, qui date début des années 70.
D'où le Elle pogote, elle pogote ma banlieue.
Voilà.
C'est un détournement du film.
Et il y en a un autre aussi, alors qui n'est pas du tout punk pour le coup, c'est Le Chat, dans lequel on voit bien la transformation de la banlieue dans les années 60-70 aussi, avec la destruction d'une certaine banlieue pour la construction d'une autre banlieue. Pour moi, ce dont on parle là, c'est essentiellement un phénomène parisien. Je viens de Lyon. Lyon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de banlieue, et j'ai même habité dans une banlieue qui s'appelle La Duchère, à partir des années 70, qui a été construite en 62 pour d'abord pouvoir héberger tous les rapatriés d'Algérie. Hein. Et au début des années 70, cette banlieue-là, elle n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, elle a été complètement détruite, donc les dortoirs de l'époque sont morts, il n'y en a plus. Mais en même temps, il y a eu une mutation de population dont tu parlais aussi, qui s'est faite dans le courant des années 80. Entre le début des années 80 et la fin des années 80, c'était plus du tout la même banlieue. Et on était vraiment dans un monde radicalement différent dans les années 70, dans ces banlieues-là aussi. Et pour le coup, les textes sur la banlieue de Renaud me parlent plus que ceux des punks par rapport à ce que j'ai vécu, ce qui est assez étonnant, mais Gérard Lambert avec sa mobilette et puis dans mon HLM, ça me parlait beaucoup plus avec au premier Yassi, au deuxième Yassa, etc. Voilà, bon, ça c'est un détail personnel qui n'a peut-être pas grande importance, mais qui était un vécu aussi.
Non, je pense que ce ressenti est assez juste. En fait, si on regarde bien, le punk arrive surtout dans les banlieues pavillonnaires, où il y a un isolement qui est en fait une répétition de mêmes strates identiques, avec des grandes distances pour aller d'un endroit à un autre, et des axes de circulation obligés. Alors que on est dans les grandes cités, dans les grands ensembles, en fait, on a une division de la surface au sol par le nombre d'étages, et chaque personne en fait n'est détentrice que d'un tout petit mètre carré relatif. Du coup, elle n'avait pas du tout le même rapport à la société, aux autres. Voilà. Et là, on est plus dans une tradition de revendication d'extrême gauche, avec Trust, par exemple, ou Renault, qui s'inscrit dans un contexte libertaire. Et on est dans l'affiliation de quelque chose apparu en 68, hein, qui s'est illustré à travers le combat syndical, à travers la gauche aussi, et à travers l'extrême gauche, dont beaucoup, à l'époque, on a quand même les Brigades Rouges, c'est quand même pas des gens qui sont très gentils. Il y a des choses qui sont assez terribles. Il y a un irrédentisme basque et breton qui tue, hein, il y a des bombes. Donc finalement, du côté de l'extrême gauche, il y a une phase qui est en lien avec une mouvance un petit peu armée, avec des revendications, et les punks sont en rupture avec ça. Ils ne se reconnaissent pas dans ce modèle-là, et ils disent, voilà, nous, en fait, on vous pose juste notre désespoir, et on vous renvoie, finalement, avec nos insignes, hein, qui sont des insignes provocateurs, finalement, vos propres tares, nous les portons avec vous. Voilà.
Oui, merci beaucoup pour vos deux communications. Donc Marine Schütz, historienne de l'art, et accessoirement marseillaise, donc et originaire de banlieue. Donc j'étais beaucoup intéressée par le témoignage de Jacques au sujet de certains points, donc qui sont un petit peu plus vieux. À un moment, vous expliquez la jeunesse maghrébine avec ses revendications ne sont pas culturelles mais territoriales. Et à un autre moment, vous associez aussi le grand capital au rap. Et du coup, je me demandais, on dirait qu'il apparaît un petit peu dans votre communication. Une dualité en fait entre une forme de culture qui serait authentique, le punk, et une autre forme de culture qui ne serait pas authentique. Donc je voulais vous demander si finalement cette notion de l'authenticité est encore opérante pour parler du punk et avoir votre avis.
Alors, pour revenir sur la culture rap, ce que je montre en fait, c'est qu'il y a une continuité dans les cités, notamment dans les cités maghrébines, où il y a différentes modes qui vont arriver, et en fait les bandes qui les composent vont adopter chacun des courants à partir du moment où il est le plus violent, le plus dominateur, pour de toute façon imposer une sorte de contrôle de qui circule, qui fait quoi et ce qu'on en pense. C'est, vous habitez dans une cité, finalement les gens savent ce que vous faites, qui vous êtes, quand vous sortez, etc. Quand vous êtes de la cité, tout va bien. Mais si vous venez de l'extérieur, c'est tout à fait différent. Or, le rockabilly s'est imposé d'emblée comme étant la mode la plus forte. Et nous, on l'a vécu aux Ulysses avec l'émergence d'une bande qui s'est tout de suite imposée, qui était composée de berbères, de portugais, de blancs, qui était une illustration de la diversité de la cité. Et quand finalement la composante maghrébine est devenue de plus en plus forte, et je l'avais déjà vécu enfant à Grenoble, là on a assisté à des comportements territoriaux de bandes, de jeunes gamins de 12 à 14 ans, qui par une violence gratuite et surtout extrême, imposent une forme de terreur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous adresser à nous. Nous vous interdisons d'être autrement. Alors au départ, ils nous interdisaient d'être autrement que rockabilly, c'est-à-dire si on était baba cool, hard, skin ou punk ou looké, on était montré du doigt et pourchassé. Donc en fait, on a une forme de revendication territoriale. Ensuite, quand le rockabilly est tombé en désuétude et que finalement sont arrivés d'autres problèmes, c'est la Zulu Nation qui s'est imposée avec le hip-hop. Et Africa Bambaataa, qui avait un message d'espoir, finalement, et de pacification, est vite passé pour quelqu'un d'assez puéril. Et ils sont passés à quelque chose de plus fort. Donc en fait, du Zoulou, qui au départ a été abondamment chroniqué et mis en avant par les médias, qui ont vu là effectivement quelque chose d'assez fort, qui se propageait d'Amérique en France, comme le rockabilly, ils sont passés finalement à un rap beaucoup plus basique. Et j'ai même connu quelqu'un qui aujourd'hui un acteur du rap très célèbre, j'étais en classe avec lui, je l'ai vu passer de rockabilly à skinhead et à skinhead de rappeur. Voilà, certains savent de qui il s'agit. Voilà. Donc et toujours avec une extrême érudition. C'était un fan de Crazy Cavan qui était incollable, c'est devenu un skinhead qui traînait au hall et qui était assez redoutable, et je crois qu'aujourd'hui il est reconnu pour Ouais. Voilà, donc aujourd'hui il est reconnu pour et on est toujours amis. tu vois. Mais voilà, et quand vous parliez du grand capital, en fait, c'est une culture ultra-libérale, où en fait, rien ne doit s'opposer à la liberté de chacun de faire ce qu'il veut, y compris d'exercer la violence vis-à-vis du prochain, de rançonner le faible ou autre. Enfin, nous l'avons vécu de cette façon-là, à notre rencontre, puisque du coup, par un renversement de situation, nous sommes devenus des proies potentielles, en tout cas des gens dont il fallait circonscrire le pouvoir de nuisance, et on l'a vécu comme tel. Par la suite, nous, on s'est organisé autour du mouvement musical, des activités associatives que l'on pouvait mettre en place. Et voilà, nous, on s'est institutionnalisé en trouvant finalement une pratique qui était une pratique de concert, qui n'était pas juste une pratique finalement d'existence de gang, hein, dont l'occupation consiste à traîner en voiture pour aller chercher ses ennemis, parce que c'est ça qu'on fait en banlieue quand on s'ennuie le soir. Hein. Donc on a commencé à répéter, on a commencé à faire des concerts, donc on a attiré des gens. Voilà. Et les MJC, qui au départ étaient vraiment des MJC chevelus, parce que mon premier concert c'était un outnani, c'est-à-dire une sorte de bal folk où chacun vient avec sa guitare, et on est venu avec un ami à moi chanter du Star Shooter et du Téléphone, parce que bon, bah, à l'époque on a 15 ans, donc et Star Shooter pour nous était quand même un groupe important, quoi. Et en fait les Rocos sont arrivés et ont envahi la salle et nous ont jeté des chaises dessus, et voilà, ils ne voulaient que rien ne se passe d'autre que ce que eux contrôlent de leur part. Non, c'était...
C'est punk. Moi, je vois une correspondance aussi dans ce dialogue qui se fait que par la violence. Et du coup, voilà, je me demandais vraiment jusqu'où allaient ces dichotomies. Mais bon.
Alors, au final, on a fini par tous se connaître à force de se courir après. Donc voilà, au bout d'un moment, il y a une forme de... Dans une région donnée, il y a une forme de connaissance mutuelle qui se fait, une forme de respect. Mais il y a eu aussi quand même des événements très graves. Et même encore maintenant sur Facebook, on n'en parle pas. Parce qu'il y a encore des gens qui sont vivants, il y a des doutes, il y a des... Voilà, il y a des histoires comme ça. Si ce groupe Suburban Punks a pu trouver finalement aujourd'hui une écoute et surtout une participation, alors que j'avais déjà lancé des tentatives similaires il y a quelques années, c'est parce qu'aujourd'hui les gens sont arrivés, ils ont vécu leur vie d'adulte, ils ne sont pas restés dans cette passion qui les aurait dévorés, ils les ont à un moment donné laissés pour faire autre chose. L'un de notre éclairagiste, aujourd'hui, il est capitaine de navires de commerce et puis il fait du cabotage dans les îles, les Antilles. Laurent, que vous avez vu avec un teddy rouge et une crête, il est logisticien pour Médecins Sans Frontières et il organise des missions partout dans le monde. Voilà, donc il fait 10 voyages par an. Voilà, donc tous ont eu finalement une vie. Vérole des cadavres a toujours travaillé chez une multinationale. Ouais, je suis désolé de le... voilà. Donc d'autres ont disparu, voilà. Nous avons aussi beaucoup de morts. Donc, mais curieusement, autour des groupes, j'ai fait un tableau l'autre jour. C'est là où nous avons le plus de survivants. C'est-à-dire, dès qu'il y a une activité, une pratique qui suppose une discipline et un esprit de travail en commun, globalement, il y a des réflexes de conservation qui viennent. Tandis que si vous êtes juste public et faisant partie d'une bande, vous êtes beaucoup plus exposé aux conduites à risque.
Merci. Bonjour. Je m'appelle Fred, je viens d'un petit village qui s'appelle Colombes, là, dans le 92. Et avec certains de mes amis, qui sont toujours vivants et bien vivants, on a eu la chance de vivre. Donc, moi, j'étais tout petit par rapport à eux, mais enfin, tout petit peu plus jeune. Le début, effectivement, de la Fontaine des Innocents, parce qu'il y a un grand mouvement skinhead vient en partie de Colombes, avec Pierre, Farid, Albert, Philippe, etc., etc., Moursa. Certains sont morts, mais en plus de l'ultra-violent, je voulais souligner leur érudition en matière de musique. Je pense notamment à Pierre, qui est devenu Pierre Pojac. Je pense à Farid, qui va être là ce soir, où effectivement, c'était des amoureux de phénomènes de bande, des samouraïs, des indiens et autres, et ça devait être les plus forts par rapport aux autres bandes encore existantes. Voilà, mais il y avait aussi ce côté d'érudition historique, à la fois en matière politique, en matière géographique et en matière de musique. Voilà, et ça a été les premiers, en fait, donc amoureux de la musique, non seulement à écouter des choses ultra-violentes, mais à se passionner aussi pour le Trojan, pour le Studio One, etc., etc. Et ça a été grâce à ce genre de personnes qu'il y a eu une évolution, et je pense notamment, moi, dans le mouvement punk, parce que moi, je continue un petit peu dans mes activités, voilà, à m'occuper d'associations et de salles de concert et à continuer à jouer. Il y a eu le phénomène Clash, les années 80, le phénomène Thatcher, le phénomène Reagan au pouvoir, donc cette lutte aussi économique et politique. C'est marrant parce qu'aujourd'hui il y a quand même quelques ressemblances, et s'il y a des résurgences même chez les plus jeunes en banlieue, c'est pas innocent par rapport à ce niveau politique aujourd'hui. Donc je voulais dire que l'ultra-violence était bien présente, mais que l'amour de la musique aussi, c'est-à-dire qu'on a continué à évoluer avec la fin du Clash. On a peut-être commencé à faire des études, mais à se relancer effectivement dans l'associatif et dans la création et l'accompagnement des mouvements, et qu'on appelle aujourd'hui musique actuelle. Les MJC ont été remplacés par les SMAC. Et maintenant, on arrive à un tel phénomène de concentration qu'on revient un petit peu, pour certains, à la culture du fanzine, à la culture de la mixité, de la parité et de la défense globale de la musique, pas uniquement effectivement du gros capital et du Peura qui marche aujourd'hui et qui intéresse beaucoup Pigas ou Missonnier ou autre, parce que Live Nation, parce que ça fait de la thune. Mais on revient aussi aujourd'hui à un modèle un peu différent. On va peut-être en parler après quand on va parler du Fahrenheit. Voilà, c'est juste un témoignage. On peut en parler pendant très très longtemps.
Merci. Voilà. Je rebondirai là-dessus en disant que, par exemple, celui qui est devenu Skin dans notre petite bande, c'est-à-dire qui est devenu Fait en France plus tard, Bruno, avait une érudition fondamentale. Voilà. Et un jour, il dit « Je n'aime pas Higelin ». Mais pourquoi tu n'aimes pas Higelin ? Parce qu'il a chanté « I love the Queen ». Donc en digne adepte des Sex Pistols à l'époque, c'était Fuck the Queen. Donc il fallait connaître quand même tout le répertoire d'Higelin. Donc il avait quand même des bases musicales assez sérieuses. Et cette érudition, on la retrouve à différents échelons dans toutes les bandes. Globalement, au bout d'un moment, il y a un corpus qui se partage et auquel peut-être maintenant les gens ont plus facilement accès par le web, à condition d'avoir cette envie. Et quand on disait que le punk revient, quand tu disais ça tout à l'heure, oui, il y a une forme d'irrévérence aujourd'hui qui s'avère comme nécessaire parce que les grands médias sont tous finalement prisonniers des mêmes groupes. Il y a un discours officiel face à une situation où personne ne semble avoir réellement prise. Donc les gens se remettent à réinventer des solutions et surtout fuient tout discours unificateur au sein d'un mouvement politique car tous les espoirs dans ce domaine ont été déçus depuis une trentaine d'années. Donc effectivement, on assiste à un intérêt nouveau. Pour cette actualité-là, qui n'a pas d'ailleurs été très très mise en lumière, comme j'ai pu le dire dans mon texte, mais qui a eu le mérite d'exister. J'ai parlé de la vallée de Chevreuse, mais on pourrait faire la même chose pour des tas d'autres endroits de banlieue. Le circuit des MJC a été fondamental, puisqu'on a eu la MJC d'ici les Moulineaux, on a eu la MJC Victor Jarrat à Champs-sur-Marne. On retrouve toujours, que ce soit à Saint-Ouen, à Saint-Denis, etc., une salle qui va permettre des pratiques, donc des gens de se retrouver pour partager des connaissances et finalement une exposition à travers des concerts. Voilà.
Oui, avant de poser ma question, je voulais, sur la question précédente, je pense que la violence est dans le même esprit, la drogue, elle n'est pas spécifique, elle n'est pas consensuelle au punk, je pense qu'elle fait partie du terrain naturel de la banlieue et un bon exemple de ça c'est Margerin. Enfin, on voit le terrain dans lequel est arrivé le punk, c'est super bien décrit par Margerin ou bien par Kebra et tout ça, et la violence elle était là avant avec les rockers et elle continue après avec le rap. Je pense que le punk est arrivé sur ce terrain là. Alors ma propre question là, c'est avec mes deux casquettes, je suis punk de grande banlieue, donc je précise ce point parce que ça n'a pas été donné, la différence entre petite et grande banlieue. Quand vous êtes à une heure de Paris maximum, c'est une chose. Quand vous êtes à deux heures, tout compris, de tout ce qui se passe à Paris, c'est tout à fait autre chose. Et ma deuxième casquette, je suis chercheur en sciences d'info-communication, et le rôle de la radio quand on est en grande banlieue, le punk, c'est un phénomène plutôt isolé, donc il n'y a pas de diffusion par les grands frères, il n'y a pas de diffusion par les copains de collège. Moi, ils écoutaient tous Santana, Clapton, enfin, pour moi, c'était l'horreur. Et en fait, les passeurs, ça a été des gens comme Manval, ces émissions de radio, ou ensuite quand il y a eu les radios libres, alors ça je dis dans les années 70, et c'est pour ça que je suis très touché que tu aies parlé de Renault, de Star Shooter, voire de téléphone, parce que, et même de Plastic Bertrand, parce que d'où on était, c'était les seuls moyens d'être touché via les grandes ondes par un premier prémisse du punk qui ensuite a donné pour moi les groupes qu'on a découverts ensuite, quand effectivement il y a eu les radios libres, etc., Carbone 14. Donc je pense que le rôle de la radio, il a été essentiel pour toucher en particulier la grande banlieue.
Tout à fait. D'ailleurs, pour moi, les passeurs, ça a été dès 76 en province. Jean-Bernard Hébé sur RTL, ça a été Pierre Lescure sur Europe 1, ça a été Bernard Lenoir sur France Inter. Ça a été des gens comme ça, Gérard Klein sur RMC aussi, qui s'ouvrait à toute cette programmation-là. Ça a été après, effectivement, Alain Banval. Ça a été ce que Bélanger a pu faire sur Radio 7. Après, il y a eu toutes les radios libres, RTH 99 Rock, dont moi je me souviens, voilà, qui ont été des radios vraiment très importantes pour nous, parce qu'elles permettaient d'avoir accès à une programmation culturelle vraiment différente et qui était en fait ce qu'on écoutait quand on allait en Angleterre ou ailleurs. Ce que vous allez en Angleterre, n'importe quel jeune de 12 ou 13 ans connaît le nom des artistes qu'ils font, etc. Il y a une connaissance beaucoup plus fine des courants musicaux.
Enfin, sachant qu'en grande banlieue, on n'était pas beaucoup allé en Angleterre, hein, je peux te dire.
Ça serait pas une question et en même temps une question, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, si on écoute le punk anglais, et je me souviens d'avoir vu une émission où Chris Hynde disait que les punks, le soir, ils allaient dans les clubs et ils étaient avec les gars qui faisaient du reggae, mais si on écoute la musique de Clash, déjà il y a une mixité de musique, un mélange qui se crée, et si on écoute après, évidemment, encore plus loin, quand ils commencent à faire des choses avec des rappeurs, il y a cette chose qui se crée et ce lien qui se crée entre la revendication, elle est dans le punk pur et dur de 75-77, et après il y a une mutation vers cette musique qui représente la revendication de banlieue, qui est le rap quelque part. Et les punks se sont pas trompés, enfin un certain nombre d'entre eux ne se sont pas trompés et ont mélangé ça. Alors on peut dire, il y a un aspect commercial, ils vendaient des disques, etc., parce que finalement London Calling c'est plus un disque de punk, c'est un disque de rock fondamentalement. Mais il y a cette chose qui existe réellement, je crois, et qui se crée avec ce mélange et cette mixité, en tout cas dans les banlieues, qui va peut-être après se scinder. Je veux dire que les rappeurs vont devenir des rappeurs purs et durs, et puis tant pis pour les punks. Et ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils ne se tapaient pas dessus. Quand on voit le film This is England, il y a tout ça qui est représenté aussi entre je suis copain avec le type qui fait du ska, mais en même temps, s'il faut lui défoncer la gueule, je le fais.
Effectivement, en tant qu'historicité et généalogie du punk, je pense qu'il y a des tas de terrains encore à explorer sur les filiations entre les différents courants. Pour moi, les Clash, c'est pas vraiment un groupe punk. Là, ils ont fait du funk, un petit peu power funk, voilà. Donc ils ont. Au début, oui. Mais au début, moi, j'ai des photos des Clash avec les cheveux longs. Il y en a d'autres qui ont été skinhead.
Mick Jones avec les cheveux longs.
Bon, les Clash, c'est un groupe assez composite. Mais enfin, pour la première fois, avec les Clash, on avait des gens qui affirmaient des fringues viriles. Alors à l'époque, c'était pas du tout les canons de l'époque. Mais enfin, avec les punks, on a pu finalement s'habiller de manière un petit peu plus masculine, on va dire. Ça a l'air bête, mais effectivement, le diktat n'est plus une forme baba cool, cheveux longs, informe. Je maîtrise ma violence et finalement, au fond de moi-même, je n'exprime plus rien. Ce qui était devenu les babacools à travers le mouvement hippie. Les punks ont permis une résurgence de cette expression-là, au-delà du rock'n'roll, qui ne l'acceptait qu'à ce moment-là, très codifié dans la gomina, avec des référents particuliers. Quant à j'ai jamais vu beaucoup de connexion avec le rap, si ce n'est que le rap est arrivé en parallèle, et qu'effectivement, on a sur la côte californienne, sur la côte ouest des États-Unis, oui, effectivement, il y a eu des choses qui sont arrivées via le hardcore, tout ça, oui. Qui nous ont...
Oui, je ne dis pas en France, hein. En France, ça ne me semble pas être aussi évident.
Si, en France, là, j'ai passé tout à l'heure des affiches de Elastic Crew Enterprise, ouais. Qui sont une association qui a bien tourné dans le 19e, 20e et sur la MJC Victor Jara, qui ont passé des groupes de fusion comme les Hardons, les Electric Bees, voilà, et eux, et qui ont permis à des groupes comme Elastic Crew, comme Cosmic Wurst d'exister, ou les Witches Valley, Girls in Love, et à chaque fois ces trois groupes tournaient en festival, on a joué avec eux dans les catacombes de Meudon, ils avaient une sorte de punk hardcore qui était vraiment très très fin, inspiré de Fugazi et de choses comme ça, et toujours très inventif, et ça, cette partie là ça a été pour nous beaucoup de week-ends, c'était à chaque fois 1000 personnes, personne n'en parlait, voilà. Donc voilà.
Merci. Une dernière petite remarque de Monique, après on fera une très courte pause et on a une table ronde derrière.
Oui, je voudrais juste témoigner par rapport à Radio FMR Toulouse, qui fait partie de ces radios libres qui se sont fondées et qui ont porté le mouvement punk. Je voudrais témoigner de la continuité qui s'est opérée avec le mouvement rap, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai que Radio FMR, c'était plutôt centre-ville et que le rap a amené les acteurs des banlieues, et que finalement, rap, reggae, punk, tout ça, il y a eu une forme de continuité, et je valide un petit peu ce que disait Philippe, pas en termes donc du coup d'affrontement, une forme de continuité sur des formes de rébellion contre un État et contre une situation une sociétale. Donc la radio a été, de ce point de vue, fédératrice. Voilà.
La radio a un super avantage, c'est qu'elle peut consacrer un moment donné à une tendance, finalement, et à explorer finalement un champ qui, pour nous, par exemple, serait allé de téléphone à Starshunter à Oberkampf et à Wunderbar, par exemple, si on veut établir. Voilà. Donc, une radio a cet avantage-là d'offrir une continuité et donc de pouvoir vraiment explorer un champ et d'y juxtaposer après un autre courant. Mais oui. Après, on a vu finalement une sorte de convergence, peut-être pas des luttes, mais en tout cas des cibles à travers ces mouvements-là. Au départ, elle était pas si évidente. Elle était plutôt l'expression d'un ras-le-bol, monde utopique de Charnier ou Ennemi, ou etc. Elle était en fait une situation à un moment donné qui était exprimée comme telle et qui était dépeinte. C'était aussi les premiers Berruriers noirs. Voilà, quand le punk est arrivé, il se contentait de poser un instantané d'une situation et de dire voilà ce que vous avez fait, voilà ce que nous sommes. Il ne proposait pas de solution, il ne disait pas c'est la faute de machin, il fuyait la récupération politique qui consistait à dire on va te donner la parole parce que finalement tu vas dans mon sens, oui, le grand capital, machin, etc. Et à partir du moment où cette politisation est arrivée dans les années 84, 85, 86, bah finalement le mouvement est devenu un petit peu autre chose. Voilà, je ne critique pas du tout, mais il y a eu effectivement une forme de récupération. La compilation du 109 pour 89 faisait passer finalement lors d'une deuxième cohabitation socialiste, donc on n'était plus vraiment dans la révolution, d'un deuxième gouvernement socialiste et une deuxième cohabitation, des groupes en leur disant vous allez être les prochains sans culottes et finalement exprimer ce que vous êtes. Simplement pour pouvoir faire partie de cette compilation, bah, il fallait effectivement connaître ceux du gouvernement qui étaient capables de nommer ceux qui étaient capables de porter leur parole. Donc finalement on n'était pas dans l'expression d'un mouvement punk et pourtant elle a été une des seules compilations qui a permis à des groupes de ce moment-là d'exister et en ce sens-là elle est précieuse. Mais la compromission entre finalement qui tient la bourse des subventions en fonction de quel discours et toi groupe qu'est-ce que tu vas faire, ça a été une équation qui a été assez difficile à vivre pour beaucoup de gens qui ne voulaient pas s'inscrire dans ce schéma-là quoi, et auquel la radio a pu rendre hommage.
Bien, merci. Je crois qu'on peut remercier encore une fois nos intervenants, Jacques et Flavien. Merci pour la qualité de vos interventions et réponses. Vraiment, merci beaucoup.